changements, faut apporter des changements. Comment qu'on les amène, ces changements-là?
Éliminez le chimique de votre nutrition. Éliminez la viande, les produits laitiers, les œufs. Il vous reste des noix, des grains, des légumes.
Végétarien depuis 5 ans.
Moi, depuis 15 ans.
Je mange pas d'énergie. Végétarien depuis 15 ans.
Yes, en pleine forme.
On a manifesté pour vous autres. Et on est fiers. Faut vous réveiller. Si vous vous réveillez pas, c'est qui va le faire? Multinationale qui te vend des produits, tu sais même pas qu'est-ce que tu manges, tu lis même pas, tu sais même pas lire. À quoi ça sert d'apprendre à lire si on lit même pas qu'est-ce que c'est notre bouffe, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Yes! Ouais! Ouais!
Si tout le monde est d'accord qu'on est ce qu'on mange, avez-vous déjà un petit peu pensé à ce qu'il y a dans votre assiette? Ici Nicolas Bachand.
L'industrie veut me faire bouffer technologique. Moi, je veux manger bon, naturel, je veux manger sensuel. Je m'appelle Sophie, j'ai froid, j'ai 28 ans.
Je m'appelle Annick Leroux, je m'efforce de manger bio et je vous souhaite bon appétit.
Non, effectivement, il n'y a pas que les OGM dans notre assiette qui posent un grave problème de conscience. En tout cas, pour moi, c'est un problème de conscience. Il y a les questions d'hormones, de croissance, les antibiotiques avec la résistance que ça suppose. Il y a tous les produits chimiques qui sont juste destinés finalement à soit embellir le produit, soit le conserver plus longtemps pour qu'il soit exporté plus loin. Parce que finalement, on ne consomme plus ce qui est fabriqué par notre voisin, par l'agriculteur d'à côté de chez nous. On consomme ce qui vient de l'autre bout de la planète. Les Sénégalais, par exemple, leur principale ressource, c'est le poisson, mais ils n'en mangent plus de poisson, on n'en trouve plus à Dakar parce qu'il est tout exporté. Ce qui reste, c'est la tête et la queue. C'est vachement appétissant. On a beau être sénégalais, quand on aime le poisson, la tête et la queue. Et c'est un petit peu... je trouve que c'est vraiment... Ça dénature tout le rapport qu'on a à l'alimentation. Tout ça parce que c'est des questions économiques et il faut qu'un produit soit beau, qu'il soit appétissant. Alors, s'il faut des colorants artificiels, mettons des colorants artificiels parce que les enfants trouvent ça plus rigolo quand c'est violet, par exemple.
Il y a de plus en plus une concentration des producteurs du domaine alimentaire, mais aussi, on pourrait dire, sur une échelle verticale, c'est-à-dire de la production à la vente, en passant par la distribution, etc. Puis, évidemment, ça passe par une logique de rentabilité et de rentabilisation, et effectivement on est entré dans cette espèce de cycle-là par rapport à l'alimentation qui jusqu'à tout récemment justement était resté un petit peu à l'écart, au point où justement en bout de route, le consommateur avec quoi il se retrouve? Il se retrouve avec un produit maximisé finalement, optimisé, et puis c'est à lui finalement de prendre, de réagir.
Oui, effectivement, il y a les gouvernements et les industries surtout se targuent d'avoir des contrôles de qualité et de santé, d'innocuité des aliments. Ça, c'est un terme qu'on voit souvent, là, qui fait très sérieux, très expert. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que finalement, l'innocuité des aliments est évaluée par des normes. Et ces normes sont choisies plus ou moins politiquement et économiquement pour répondre à toutes les contraintes et les intérêts de chacun. Ce qui fait que dans chaque pays, les normes sont différentes. Alors là, personne ne se demande pourquoi dans un pays, un produit est plus dangereux que dans un autre, ou moins dangereux en moins de pourcentage, et ainsi de suite. Ça, c'est des questions importantes qu'on néglige de nous dire. Je vais prendre un exemple qui ne concerne pas forcément l'alimentation, mais qui est assez parlant. En France, l'année dernière, en automne, il y a eu un accident nucléaire dans une centrale. Ça n'a pas été très ébruité parce qu'évidemment, ça ne fait jamais plaisir d'apprendre une nouvelle comme ça. Donc, on n'en parle pas. Il y a eu des fuites et elles ont dépassé les normes minimales acceptables pour l'être humain. Le porte-parole responsable a dit sans rougir à la télévision, à la radio, que oui, effectivement, la pollution avait dépassé les normes, mais que ce n'était pas dangereux pour la santé. Alors, à quoi elles servent, ces normes-là? Est-ce qu'on nous prend pour des imbéciles, ou est-ce que... c'est ça, une question qui attend une réponse.
On bouffe et on surbouffe au point où, justement, selon une étude de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé l'année dernière, il y a une fois et demie assez de bouffe pour nourrir tout le monde amplement sur la planète en ce moment, puis on est en train de faire croire justement que les OGM vont répondre à ce problème-là. On bouffe et on surbouffe, mais dans le fond, toute l'attitude qu'on a envers l'alimentation, d'après moi, est une question de... en bonne partie de culture. Puis bon, quand on parle de culture, il y a une question d'information là-dedans. La publicité, effectivement, est une forme d'information, mais je veux dire, si on parle de la publicité au sens strict, c'est effectivement de faire plier l'opinion publique. Mais si on parle donc d'information et de culture, moi, je regarderais ailleurs qu'en Amérique du Nord, parce qu'en Amérique du Nord, justement, on a une attitude très instrumentaliste envers l'alimentation, très industrialisante, en fait, tandis qu'ailleurs, justement, comme au Japon ou en Europe, comment ça se fait qu'effectivement, on insurge contre certains trucs et puis on pose des gestes, on fait des choix qui font pencher la balance.
C'est vrai que la question des droits de l'homme, depuis une vingtaine, même une trentaine d'années, a apporté beaucoup de progrès dans de nombreux domaines. Maintenant, qu'est-ce que les droits de l'homme peuvent apporter concernant l'alimentation à l'échelle planétaire? Je pense que plus que sur l'alimentation elle-même, ce serait plutôt sur les modes de production de l'alimentation que les droits de l'homme pourraient intervenir. C'est-à-dire, étant donné que l'agriculture s'industrialise de plus en plus, et on l'a vu à l'OMC, ils veulent entrer l'agriculture dans les services, la libéraliser les échanges, supprimer les subventions gouvernementales, c'est le secteur qui est le plus subventionné. Bon, peut-être que si les droits de l'homme interviennent dans toutes les questions de droits du travail dans les pays en voie de développement, parce qu'on consomme quand même beaucoup de produits qui sont importés de ces pays-là, ce serait quelque chose qui pourrait améliorer grandement le résultat de ce qu'on va manger. Par exemple, on pourrait, si nous on se mobilisait pour interdire le DDT dans le reste du monde, ce serait un progrès parce que c'est les agriculteurs là-bas qui, eux, sont pollués directement. Nous, on le mange à des doses plus réduites, mais eux, ils en sont aspergés. Mais maintenant, le problème, c'est que les pays en voie de développement qui ont un cruel besoin de se développer, justement, et d'exporter plus, parce que malgré tout, ils n'exportent pas beaucoup par rapport à la masse d'exportation, ces pays-là sont les premiers à refuser qu'on parle de ces questions-là dans des débats internationaux, comme à l'OMC, justement. Et c'est en partie ce qui a fait échouer les négociations. Donc, il va y avoir un débat social à l'échelle internationale qui va devoir se faire, parce qu'il y a les questions humaines et de respect et droits de l'homme sont vraiment trop brimées par des impératifs économiques. Et ça brouille toutes les cartes.
Pourquoi des gens commencent maintenant à s'affirmer, à protester et à militer? J'ai l'impression, à mon humble avis, que l'un des facteurs déterminants, c'est que depuis la Révolution verte, finalement, depuis les années 40-50, effectivement, on a commencé à industrialiser l'agriculture. On sait depuis longtemps qu'on utilise des engrais, des pesticides, etc. Les hormones de croissance, patati patata. On en est conscient depuis un bon bout de temps, mais ce qui est de nouveau, c'est que faut pas se leurrer. On arrive à l'aube d'une espèce de révolution technologique. On a vu à peine la pointe de l'iceberg, et puis finalement, on est rendu... la fiction est devenue la réalité. Avec les organismes génétiquement modifiés, avec le brevetage du vivant, avec le clonage, avec ce qui pourrait être finalement la discrimination génétique, avec le dépistage des gènes, etc. On se retrouve avec des questions de société fondamentales, alors qu'on ne nous a jamais posé justement la question quel genre de société on veut. Donc, on arrive à un point où il y a des changements fondamentaux qui se produisent, puis il est temps de réagir un petit peu.
Comment ça se fait qu'on se sent à l'extérieur de toutes les décisions, de toute l'évolution, comme si quelque chose faisait évoluer la société puis qu'il fallait qu'on la suive en courant derrière. Je pense qu'il y a des choix de société qu'il va falloir faire et on ne peut pas nous écarter de ces choix-là. Et les conditions qui dirigent ces choix ne peuvent pas être seulement économiques. Et c'est là que la bioéthique intervient. Pour l'instant, c'est essentiellement les gouvernements qui s'organisent autour de cette question-là sous la pression de l'opinion publique. Ça concerne surtout le clonage. On entend surtout parler de bioéthique par rapport au clonage, mais il ne va pas y avoir seulement la question du clonage sur laquelle il va falloir se poser des questions. Finalement, on parle d'éthique juste quand il s'agit de du corps, de la manipulation du corps humain, mais ce qu'on mange, ça manipule le corps humain aussi. C'est ce qui fait qu'on régénère nos cellules. Donc l'éthique doit faire intervenir toutes les questions qui touchent à l'environnement, qui touchent à l'avenir finalement, à tout ce qui est vivant. Et l'alimentation fait partie de ces questions-là qu'il va falloir se poser et qu'on ne peut pas nous enlever le devoir qu'on a d'intervenir. C'est faux de croire que la société évolue sans nous.
Effectivement, il y a cette espèce de paradoxe-là d'avoir d'un côté des intellectuels ou des gens qui, finalement, posent une certaine réflexion, ou que ce soit intellectuel ou quoi que ce soit, qui posent une réflexion sur le système de production alimentaire ou quelques questions sociales que ce soit. Et puis, d'un autre côté, on a les gens qui travaillent dans ce domaine-là, c'est-à-dire les ingénieurs ou quoi que ce soit, qui, eux, sont finalement pris dans une espèce de, qu'on pourrait dire, une espèce de d'engrenage, justement, dans lequel ils sont muselés dans une bonne part parce qu'ils doivent répondre à certains impératifs, satisfaire le client, parce qu'un ingénieur, c'est ça. C'est un paradoxe, une espèce de contradiction, justement, qu'il faudrait finir par, faudrait aller poser les questions aux techniciens et aux scientifiques, effectivement, entendre leur opinion et qu'ils viennent discuter avec les éthiciens, justement, les gens, les spécialistes de l'éthique, et qu'ils viennent discuter avec les citoyens avec une conscience.
Il n'y a pas seulement qu'est-ce qui se retrouve dans notre assiette qui peut poser des problèmes, mais il y a aussi la personne qui tient la fourchette. Nous aussi, on a quelque chose à dire sur qu'est-ce qu'on mange. On a le choix de choisir ce qu'on veut manger. Si moi, je fais ma job en tant que... pas ma job, mais moi, si je me renseigne, si je m'informe de ce que je mange, puis je trouve que qu'est-ce que je mange ne correspond pas à mes valeurs, ben je me dois de questionner finalement les producteurs. Puis c'est pour ça finalement que je veux militer pour poser des questions, pour avoir des réponses surtout, puis rapidement s'il vous plaît, pas seulement avoir un étiquetage, imposer un moratoire, tout ça, puis l'étiquetage aussi d'un autre sens, ça peut être biaisé l'information. Un produit contenant une étiquette qui dit peut contenir des OGM, c'est de la foutaise, là. C'est comme dire peut contenir des traces d'arachide, là. C'est ridicule.
On a manifesté pour vous autres, puis on est fiers!